Nous avons déjà évoqué plusieurs fois le chapitre 13 de la première lettre de Paul aux Corinthiens que certains ont appelé l'hymne à l'amour. Permettez-moi aujourd'hui d'attirer votre attention sur un autre chapitre du Nouveau Testament, construit à peu près de la même manière, et qui constitue cette fois un hymne à la foi. Il s'agit du chapitre 11 de la lettre dite aux Hébreux. Dans ce texte, l'apôtre évoque dans un émouvant tableau les exemples de force et de courage moral des principales figures de l'Ancien Testament, dont le comportement a été inspiré par la foi. Ici, nous voyons la foi à l'œuvre. C'est pourquoi il est bon de relire ce texte souvent, pour nous imprégner de son esprit et apprendre de mieux en mieux comment vivre sa foi dans la réalité du quotidien. Le texte déclare d'abord que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Ou selon une autre traduction, la foi est la garantie des biens que l'on espère, la preuve des réalités qu'on ne voit pas. Et aussitôt nous avons un premier aperçu de la foi en action. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Dans le texte qui suit cette déclaration, la foi est constamment mise en rapport avec des réalités qui ne sont pas directement vérifiables par nos sens, et en particulier par la vue. Il est question d'une certaine vision de la foi qui échappe à toute démonstration scientifique. Ainsi, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est également par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi que Moïse quitta l'Égypte à la tête de son peuple à sauver, sans craindre la fureur du roi. Il tint ferme comme s'il voyait l'invisible. Il y a ici pour nous un aspect de la foi qui est souligné. C'est qu'elle est convaincue de la réalité et de la présence de quelque chose que les yeux de notre corps ne voient pas. Ainsi, l'apôtre Paul écrit « Nous marchons par la foi et non par la vue ». Le comportement du chrétien ne dépend plus de ce qu'il peut constater avec ses yeux, mais d'un nouveau regard qui contemple des choses que ses yeux ne voient pas. Paul précise bien que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Et il explique « Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » Et aussitôt, il tire une conséquence pratique de ce regard de la foi. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, c'est-à-dire notre corps, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Qu'est-ce qui peut faire dire Qu'est-ce qui peut faire parler un homme de cette manière? Qu'est-ce qui peut pousser un homme à croire de toutes ses forces à ce qu'il ne voit pas et qu'il n'a jamais vu? Un seul mot peut expliquer un tel comportement, la confiance. Car la foi est surtout faite de confiance. Croire, c'est avoir confiance. C'est faire confiance. Vous vous mettez en route pour un long voyage vers un pays ou une ville que vous ne connaissez pas. Vous redoutiez un peu d'arriver dans ce lieu inconnu, mais un ami sera là, à la gare, pour vous accueillir. Comment le savez-vous? Il vous l'a écrit, il l'a promis. Bien sûr, il est à la merci d'un empêchement imprévisible, c'est toujours possible. Mais si tout va bien, il sera là. Vous ne seriez pas parti sans cette assurance. Et ce sentiment qui vous rassénère, c'est la foi, c'est la confiance dans cet ami. La foi en Dieu, la foi en Christ est faite de cette même matière. Je crois parce que j'ai confiance en lui. Il a parlé et sa parole n'est pas mensonge. Il a promis et il tiendra sa promesse. C'est dans un accent de supplication que Jésus dit à ses apôtres « Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. » Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Partout dans les Écritures, cet aspect de la foi-confiance est souligné. La lettre aux Hébreux nous parle de Sarah, la femme d'Abraham, qui fut rendue capable d'avoir un fils malgré son âge avancé parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Le même témoignage est rendu à Abraham dans la lettre de Paul aux Romains. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faillir dans la foi, il ne considéra pas que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah elle-même n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Mes chers amis, l'exemple d'Abraham nous paraît sublime, et par là même exceptionnel et presque inimitable. C'est vrai que le destin d'Abraham a été grand et sans doute unique, mais dans son principe, la foi d'Abraham n'est pas faite d'autre chose que de confiance en la parole donnée, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Mais ce qui fait que la foi d'Abraham a été grande, c'est qu'il a persisté dans sa confiance, malgré toutes sortes de circonstances qui auraient pu le faire douter de la validité de la promesse et perdre confiance. Notre foi, notre confiance, repose sur le témoignage de ceux qui ont vu et entendu le Seigneur, parlé et vécu avec lui. Ils nous ont transmis la parole qu'ils ont eux-mêmes reçue de lui. La parole faite d'enseignements, de commandements, de préceptes, de révélations, d'avertissements et de promesses. « J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, » dit l'apôtre Paul. Et il se réjouit de ce que notre témoignage auprès de vous a été cru. Dans sa prière, Jésus prie pour ses apôtres en ces termes. « Ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. » Et puis il ajoute, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. » C'est donc à notre intention que le Seigneur prie ainsi. Car nous sommes de ceux qui, à travers la Bible, entendons le témoignage des apôtres. « Ces choses ont été écrites, dit l'apôtre Jean, afin que vous croyiez. » Comment accueillons-nous leurs paroles? Avec méfiance? Avec légèreté? Avec indifférence? Avec dédain? Ou avec joie, dans une confiance totale? Je sais que nous avons tous été modelés par toutes sortes de circonstances, par tout un passé social et religieux. Toutes sortes d'influences gouvernent notre comportement. Mais cela n'enlève rien au fait que la parole de Dieu est toujours là. Le témoignage des apôtres, des rédacteurs du Nouveau Testament est toujours présent, même s'il est étouffé par les bruits de notre monde. Chaque fois que nous l'entendons, notre responsabilité demeure, accepter ou refuser. Fermer son cœur, faire comme s'il n'existait pas, ou le prendre au sérieux et lui donner toute notre confiance. Car ceux qui témoignent ainsi devant nous de ce qu'ils ont vu, entendu et touché, ont signé leur déclaration de leur sang. La foi est donc loin d'être aveugle et irraisonnée. Nombreux sont ceux qui, depuis le commencement, ont accueilli avec joie et confiance la parole de ces témoins. Et ceci nous amène à considérer un autre aspect de la foi, c'est qu'elle est aussi un engagement. Celui qui, par la foi, marche comme s'il voyait l'invisible, donne à sa vie une orientation nouvelle et précise, en fonction des connaissances et des certitudes nouvelles qu'il vient d'acquérir. Le changement intervient déjà au moment où il abandonne une certaine manière de vivre et de penser, pour adopter la manière de vivre que Dieu lui indique. Cela implique parfois un revirement complet. Il est devenu conscient de ce qui autrefois le laissait presque totalement indifférent, à savoir la réalité du péché, source du mal et de souffrance dans le monde, et sa puissance de destruction et de pourrissement. C'est ici qu'intervient cet acte de foi initial qui s'appelle le baptême, par lequel le croyant entre en contact avec le sang du Christ. Car dans le baptême, le sacrifice de Jésus, sa mort et sa résurrection sont pour le croyant des événements qui le concernent personnellement. Ses péchés sont effacés, selon la promesse. Il devient une nouvelle créature, car il vient de renaître à une nouvelle vie dans la famille de Dieu. C'est pour cela que Jésus dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création », « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Le baptême est effectivement un acte de foi, de confiance et d'humilité. Il constitue le moment crucial de la conversion. « Par votre baptême, vous avez revêtu Christ, » dit l'apôtre Paul. C'est donc un acte d'adhésion au Christ et d'identification avec lui. C'est pourquoi il ne peut être administré qu'à des personnes pleinement conscientes de la signification de ce geste. Si la foi est un engagement envers le Christ, elle est également un engagement dans le monde. Elle n'est pas un à côté de la vie, mais elle devient la vie. Claude Jeffrey, dans un petit livre intitulé « Un espace pour Dieu », remarque que beaucoup d'adultes qui ont reçu une éducation religieuse pourraient dire le mot d'Henri de Monterland « Il nous restait à tous comme une odeur de foi ». Comment la foi devient-elle progressivement quelque chose d'irréel ? La réponse à cette question est assez simple. Beaucoup de gens semblent confondre éducation religieuse et foi. Beaucoup de personnes, de ma connaissance, ont reçu une copieuse éducation religieuse, mais elles ne se sont vraiment jamais converties au Christ. Une autre raison est que la vraie foi ne peut provenir que de la parole de Dieu. Et je constate que beaucoup de personnes ont la foi en une institution, mais elles ne connaissent pas le Christ tel qu'il se révèle dans sa parole. La foi est comme une plante qui a besoin de nourriture et de lumière, régulièrement. Elle est comme une flamme que l'on doit alimenter sans cesse. Or, quelle peut être la foi de ceux qui n'ont jamais ou presque jamais entendu la parole de Dieu ? Et s'il existe une étincelle, comment peut-elle devenir une flamme, ou même subsister, s'il n'y a jamais de contact avec la parole de Dieu, laquelle est la source et la nourriture de la foi ? Tant il est vrai que la foi est constamment assaillie dans le monde. C'est pourquoi la Bible parle de ceux dont la foi défaille. Elle parle de ceux dont la foi a fait naufrage, qui se sont égarés loin de la foi, qui l'ont même reniée. Elle parle aussi d'une foi morte. Il est une autre caricature de la foi, c'est celle qui consiste à l'envisager comme un opium, comme une drogue, un refuge pour ne plus voir les dures réalités de la vie ou leur échapper. Mais la foi est au contraire une prise de conscience plus vive que jamais des réalités de la vie. Et celui qui a la vraie foi se sent beaucoup plus responsable de lui-même et du monde. Il cherche alors à devenir à son tour un témoin du témoignage des apôtres, car il a éprouvé dans son âme le même bouleversement qu'eux à l'annonce de la résurrection du Christ. Il participe pleinement à la vie des hommes en essayant de les éclairer de la lumière du Christ. Obéir à l'appel de la foi, ce n'est pas démissionner en face des problèmes du monde sous prétexte que l'on remet tout entre les mains de Dieu, c'est se sentir au contraire missionné par lui auprès du monde. Chers amis, il y a encore beaucoup de choses à dire sur ce sujet, vous le devinez bien, mais il me faut conclure en soulignant encore une fois que nous devons apprendre à ne pas séparer la foi de la vie. Elle doit se confondre avec elle et l'éclairer dans tous ses aspects. Et sans doute devons-nous également apprendre à prier comme les apôtres, augmente-nous la foi. Ou comme cet homme, au cri bouleversant, « Seigneur, je crois, viens au secours de mon incrédulité ».